I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss.
Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique.
Sens Créatif, c'est un appel à l'aventure qui vient questionner nos certitudes, serpenter entre nos doutes et danser avec nos peurs sur le chemin de la créativité.
Parce qu'au milieu du chaos, il y a toujours une opportunité à saisir, une nouvelle stratégie à transcender pour atteindre le sommet de la montagne, aller plus loin encore, se réinventer et recommencer.
Pour nous aider à développer Sens Créatif, soutenez-nous sur Patreon. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club sur notre plateforme Discord, à des mentorings collectifs et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance.
Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
Salut Goué.
Salut.
Bienvenue sur Sens Créatif.
Merci de m'accueillir, je suis ravie.
Ben nous aussi. Et pas mal.
Non mais en fait on est entre trois bavards.
Ouais.
Parce que tu es très bavarde, Goué.
Ouais, ça fait quelques heures déjà qu'on discute, faut quand même le dire.
Du coup, là-dessus, on a vraiment commencé déjà la discussion depuis un moment. Mais là, on démarre vraiment la discussion pour l'épisode.
C'est ça.
Ouais.
Qui es-tu, Goué ?
Oh, la question ! Qui je suis ? Merde, tu veux pas en poser une autre ? Genre, je sais pas...
Si, on en a une autre. En fait, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin ? Ah. En plus de savoir qui tu es.
Ah, ça c'est déjà mieux. Les milliards de trucs que j'ai à faire le matin me lèvent tout seul en fait, les milliards de projets. Du coup, je fais du yoga et de la méditation.
Ah, tu commences comme ça ?
Ouais, je commence comme ça. Et puis aussi, je dois me lever parce que j'ai un enfant à m'occuper. Mais je fais du yoga, de la méditation, je m'occupe de mon enfant pour aller travailler sur mes 1000 projets. Voilà ce qui me lève le matin.
Du projet, on va avoir des choses à se raconter.
Tu vois ça comme des rituels, justement, enfin, ton début de matinée.
Ouais. Ben, si je fais pas ça, je suis pas là, je suis éparpillée, brouillon, c'est confus. Donc ouais, j'en ai besoin, un peu comme un moine Shaolin, tu vois, mais en meuf. Un œuf cool.
Tu vas lui parler là, si tu parles des moines Shaolin.
Oui, ils sont partis déjà
sur
les Shaolin.
Oui, c'est vrai, merde.
On est mal barré. Mais si on remonte le fil des souvenirs, à quoi rêvait la petite Gwenaëlle ?
Vachement quand même de petits poneys et de Barbie, ça on va pas se mentir.
Tu es habillée en rose complet,
ouais,
genre rose.
En rose lit de vin.
Ouais, voilà.
Avec une petite poire.
Avec une petite poire jaune, voilà. Et des boucles d'oreilles jaunes, parce que j'avais ce truc de coquetterie déjà enfant. Non, moi j'étais très fille, très dessin animé, très Barbie.
Dorothée, Club Dorothée.
Club Dorothée, ce que je vous disais, ma babysitter qui est restée très longtemps, de nombreuses années à mes côtés.
Mais elle a jamais été payée pour son babysitting.
Et non. C'est ça, babysitter gratos.
Oh, je pense qu'elle est pas trop à plaindre.
Non. Donc voilà, la petite Goué, elle rêvait de jouer en fait, de pas aller à l'école, surtout pas.
T'aimais pas l'école ?
Non. Non, j'ai en fait, je le savais pas à l'époque que j'avais un TDAH. C'était compliqué l'école pour moi parce que du coup, j'arrivais pas à me concentrer. J'étais toujours dans la lune, comme c'était écrit ou dit à mes parents. Donc non, c'était une contrainte, ça me demandait des efforts. Puis je comprenais pas pourquoi fallait rester assise à écouter des trucs barbants alors qu'on pouvait jouer.
Le nombre de TDAH qui sont passés sur le Sens Créatif, c'est...
Il doit y avoir un rapport quand même avec,
ouais, avec la créativité, ouais. Le fait de pas savoir choisir, d'avoir besoin de se canaliser comme ça, de faire un milliard de choses.
Mais, puis il y a un truc qui fait kiffer, tu vois, un truc où tu joues, un truc où t'es libre un peu. Voilà.
C'est une quête de liberté, hein, finalement, nos métiers.
Ouais.
Et bien, ça fait grave réfléchir, parce qu'en fait, moi, je me suis jamais fait tester pour quoi que ce soit,
par manque d'intérêt, puis parce que j'avais pas forcément les signes. Mais chaque fois que justement j'entends parler des personnes qui ont vécu ça, qui ont découvert en fait spécifiquement quel était leur mode de fonctionnement cognitif, et ben moi je me pose la question, je me dis mince, j'ai peut-être un mode de fonctionnement cognitif.
T'es aussi barjo, nous pas compte.
Moi je suis un peu barjo, c'est sûr.
C'est possible. Et moi j'ai appris qu'on se reconnaissait entre nous en fait.
Ah ouais.
Les gens qui avaient un TDAH ou une hypersensibilité prononcée, ce qui est mon cas, se reconnaissaient entre eux. Donc intuitivement quand même on est attiré par les mêmes profils.
Est-ce que c'est pour ça que t'es venu nous faire un petit coucou?
Mais certainement, parce que ce que je vous expliquais, c'est que oui, ce dont vous parlez dans ces émissions me résonne énormément chez moi, pas que à mon endroit d'artiste, mais à mon endroit d'humaine sensible. Ouais.
C'est-à-dire,
et en quête de soi.
C'est quoi cet endroit d'humaine sensible?
Plus cette question, ouais, de quête de soi, quand tu parles de, ouais, là, je vais bugger sur, tu vois, là, typiquement, clic, on m'a perdu.
Quête de soi.
Quête de soi. Quête de soi. Voilà, ça y est, j'ai perdu le fil. On passe à autre chose.
Moi aussi, tu m'as fait bugger.
Tout le monde a perdu le fil. Ouais.
Bah oui, tiens, c'est moi qui vais te le ramener.
Ah non, point de sensibilité, ton humanité. C'était
ouais,
ça.
C'était ça, mon humanité. Non, mais en fait, sur la question justement de qu'est-ce qu'on vient chercher dans notre métier d'artiste, qu'est-ce que, voilà, pourquoi on fait ça, c'est, en fait, souvent, ce dont vous parlez ne parle pas de notre discipline artistique à proprement parler, mais plutôt comment on essaye d'être soi à travers ce qu'on fait. Moi, je me rends compte que je fais pas que m'amuser quand je dessine, je me cherche un peu, et d'ailleurs, j'essaye de créer des outils qui m'aident à la connaissance de moi-même, quelque part. Moi, j'aime bien les ouvrages de développement personnel, etc., illustrés, ou les romans graphiques qui traitent de développement personnel, entre guillemets, parce que... voilà, c'est un genre de produit sur lesquels je peux travailler, parce que, justement, ça va mettre ma sensibilité artistique dans mon questionnement humain de qui suis-je, où vais-je, que veux-je.
Mais je pense que cette sensibilité, ou du moins cette clairvoyance, cette conscience, tu l'as pas toujours eue. Non. Est-ce que tu peux un peu nous raconter d'où tu viens, et puis un peu ta quête, ton chemin, Gwé aujourd'hui, mais on remonte un peu dans le temps.
Parce que t'as beaucoup d'activités, mais ça on va en parler tout à l'heure.
Ouais, j'ai beaucoup d'activités. Je vais essayer d'être concise, c'est compliqué.
Dans ton arrière-plan.
Mon arrière-plan, c'est quand même une enfance avec beaucoup de traumas assez graves, enfants et ados, qui m'ont quand même beaucoup vulnérabilisée, et dans un contexte en plus un peu de violence ordinaire, et finalement, ce besoin de dessiner, c'était déjà un refuge quand j'étais enfant. Il y avait quand même ce truc de... ou tout comme le goût pour les Barbies, en fait, c'était de se faire une petite place au soleil, voilà, où tout se passe bien, où tout est joli, en réponse
une
à
safe place.
Une safe place, ouais. Et en fait, c'était tellement un peu le seul endroit sécurisant que, de fait, des études d'art est apparu comme une évidence. Donc j'ai fait des études d'art à Paris. Je suis restée pendant 10 ans en tant que graphiste. J'ai commencé en tant que graphiste. Et en fait j'étais assez rapidement freelance. J'ai dû être salariée les 6 premiers mois de ma carrière. Et puis après la boîte où j'étais a été rachetée. Et je me suis aventurée comme ça dans la vie de freelance, et ça a été vraiment super parce que j'ai fait beaucoup de missions en freelance dans les agences de pub. J'ai surtout bossé pour aider des copines. On a monté le salon de la mode éthique, dont je me suis occupée de la communication pendant 10 ans. J'ai travaillé beaucoup dans la musique. Je me plais toujours à dire que j'ai été la graphiste de Richard Gauthener. Si t'as la ref, c'est que t'as plus de 40 ans.
Moi, je l'ai pas, mais toi, oui, je crois.
Voilà. Moi, j'ai la ref. Ouais,
voilà, c'est ça.
Allez, hop, on y va. En route vers l'aventure.
Voilà, c'est ça. Parce que du coup, pendant qu'on regardait les clubs Dorothée, effectivement, Gauthier, il faisait des jingles pubs de l'époque.
Vous faisiez tous les jingles pubs, hein,
Ouais, ouais, ouais. Ben, on se lève tous pour Danette, Richard. Vitel, réveillez votre vitalité, tout ça, c'est Gauthier. Donc, j'ai été sa graphiste pendant 10 ans. Donc, ça, c'est ma petite histoire rigolote. Et puis, mais j'ai toujours voulu être illustratrice, mais ça marchait pas. Je me suis pris une claque en sortant de l'école, en allant au salon du livre de Montreuil.
Ouais.
C'était une révélation. Et ça m'a mis une claque en me disant, mais je suis pas du tout au niveau. Et vraiment, je suis partie en pleurant et en me disant, bah, je suis pas du tout prête, quoi. Mais vraiment, y a eu un truc qui m'a inhibé de voir tous ces talents.
T'avais la vingtaine là.
Ouais, j'avais la vingtaine.
Qu'est-ce que tu penses qui te manquait à part évidemment l'assurance et la légitimité? C'était quoi vraiment en détail? Qu'est-ce qui t'a fait ce vertige?
Je pense qu'il me manquait encore du talent que j'avais pas. C'était en germe, c'était en gestation, c'était fragile, ça se cherchait. Je sentais bien que j'étais pas au niveau du tout, donc j'avais besoin de temps pour expérimenter. Donc j'ai quand même beaucoup utilisé l'illustration dans mon travail de graphiste parce que j'avais cet appel quand même très fort qui j'avais envie que ça revienne, le dessin plus que la mise en page ou la recherche de création de logo, etc. Et
t'avais déjà le goût.
Ouais.
Andy sur Creative Talk, ouais. Il parle souvent de ça. On a le goût, on a déjà un bon goût.
The taste
qui est développé.
The taste.
Mais après, il manque le travail.
Ouais.
Le travail, la pratique, la discipline. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que t'avais déjà le goût et que, justement, vu que t'avais déjà cette culture graphique, ce bon goût, tu t'es rendu compte que là où tu en étais, s'il y avait un trop gros décalage.
Exactement.
Quoi.
J'en étais consciente.
Quels éditeurs te faisaient kiffer à l'époque? Parce que si tu vas à Montreuil, c'est qu'il y a des éditeurs qui te font kiffer.
Ouais, à l'époque, c'était les débuts des éditions du Rouergue.
Ouais, avec Olivier Douzou.
Ouais, ça a été Frédéric Bertrand.
Ouais,
j'adorais entre le collage, le dessin naïf et tout. Vraiment, j'étais super fan de cette maison d'édition. Et d'ailleurs, je ne retiens que celle-là. Après, je trouve que déjà à l'époque, Nathan faisait des très beaux ouvrages.
Ouais, Nathan, il y avait des belles collections à l'époque.
Ouais, de Coq d'Or déjà. Enfin, donc il y avait déjà des Casterman. Il y avait déjà des magnifiques choses à voir. Mais je sentais bien que j'avais pas ma place là. Donc j'ai commencé à bidouiller de mon côté. Et puis le graphisme a pris vraiment beaucoup de place. Ça a vraiment super bien marché. Je me suis retrouvée en pré-burnout. Donc j'ai fait appel à...
Quand c'était pas à la mode?
Non, ouais, quand c'était pas à la mode, je l'ai découvert. Tu vois, je suis un peu l'instigatrice. Je suis sûre que c'est par moi que c'est passé.
Je te remercie.
Ouais, je sais, pardon.
Bravo.
Écoute, faut essayer des trucs, mais ça marche pas. Je suis d'accord. Et donc, je me suis associée avec une amie qu'on a monté Monique Design. Donc, c'était vraiment un binôme de filles graphistes qui faisaient des trucs de filles dans la mode, etc. Et la musique, tout ça. Et en fait, au bout de quelques années, ma coéquipière, Bérangère Starn, qui se reconnaîtra, est partie faire un an le tour du monde et donc m'a laissé les clés de la boutique à nouveau toute seule. Et là, j'ai vraiment fait mon burn-out parce que toute seule, on n'arrive pas à faire le boulot de deux. Et en fait, ça m'a mis une deuxième claque. Je devais avoir la trentaine en me disant, putain, elle court le monde, c'est génial ce qu'elle fait. Moi, je suis là à faire mes petits logos dans mon petit appart. J'ai vraiment une vie de merde. Donc, j'ai très mal vécu et je me suis dit, bon, si tu veux te sortir de cette sinistrose, vas-y, fais-toi plaisir, fais vraiment de l'illustration jeunesse. Et donc, j'ai commencé à faire des paper toys. Et comme j'ai travaillé pour la mode éthique, le salon de la mode éthique, il y avait la marque Coq en pâte. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est une marque pour enfants éthique, qui fait des fringues super jolies, qui démarrait et qui était très reléguée par la presse. Et en fait, Coq en pâte m'a donné ma chance et a édité les paper toys chez eux. Et comme ils sont très visibles, et ben du coup là, moi, ça a complètement démarré avec ça. Et du coup, ben la marque de jouets Jeannot m'a appelée derrière et donc a commencé à me commander un jouet, puis deux, puis je suis restée 10 ans avec eux. Donc voilà, j'ai complètement basculé dans l'illustration très rapidement. En un an, j'ai eu des commandes parce que j'étais visible. Voilà. Puis aujourd'hui, ben j'en suis là.
Enfin, tu fais plein de choses.
Oui, j'avais plein de
choses. Moi, je sais que la porte d'entrée pour ton travail. Sûrement pour beaucoup de personnes dans la profession également, c'est le magazine Georges et puis Graou.
Ouais.
Parce que, oui. Si je me trompe pas, t'as beaucoup illustré pour Georges. Et puis après, il y a eu Graou,
ouais.
Que tu t'es vraiment approprié.
Oui.
Enfin, on t'a demandé de t'approprier, il me semble.
Alors, c'est moi qui ai mis un pied dans la porte.
Ah, ok.
Ouais.
Cool.
Parce que du coup, effectivement, je travaillais, je faisais des petites illustrations comme ça, ponctuelles pour le magazine Georges.
On a reçu Anne-Bénédicte
Schwebel
sur le podcast. Ouais. T'as écouté cet épisode?
Oui, bien sûr, j'ai écouté.
Ouais, évidemment.
Et Anne-Bénédicte, justement, comme leur maison d'édition est à Lyon et que j'ai emménagé à Lyon au même moment, on a vraiment sympathisé de plus en plus et j'ai sympathisé vraiment avec toute l'équipe, dont certaines personnes sont devenues des amies. Et au fil des discussions, j'entendais qu'il y avait quand même la volonté de créer le petit frère de Georges, mais qu'il y avait une grosse lacune de temps. Et j'étais là, putain, c'est bien ça, c'est plus pour moi. Moi, j'ai vite compris que mon style était très ciblé petite enfance.
Petite enfance, ouais.
Et là...
C'est chiant ça, non?
Ouais.
Je trouve qu'il y a un truc, c'est peut-être des gros sabots, mais qu'en France, quand on a un style un peu comme le tien ou comme le mien et d'autres un peu synthétiques, un peu graphiques, justement, on vient du graphisme tous les deux, il y a ce truc de... Oui, mais c'est un peu trop enfantin ce que vous faites. Mais c'est pas enfantin, bordel de merde. Oui. C'est ouais. graphique, ok. C'est une certaine culture visuelle. Mais il y a un truc un peu en France, là, dans les pays anglophones. On va pas dire que notre style est enfantin, que ici c'est enfantin et ça nous ferme des portes. Voilà, c'est mon petit coup
ça,
de gueule du moment.
Ouais,
mais
je suis d'accord avec toi. Mais des fois, je m'auto coup de gueule toute seule, tu vois, parce que des fois, j'ai envie de faire des trucs de plus grand.
Mais aujourd'hui, moi, quand j'entends ton boulot, je pense pas enfance. Hein.
Ouais, ben pour le coup parce que je me suis beaucoup diversifiée et que j'ai ouvert la tranche d'âge et puis parce que je fais des trucs aussi un peu plus pour les adultes aussi, j'avais besoin. Mais pour revenir à Graou, du coup, Graou, il y avait pas le temps. Donc c'est vraiment Anne-Bénédicte et toute l'équipe de Maison Georges, j'avais vraiment pas le temps de s'occuper de ça. Donc j'aurais dit, écoutez, moi, si vous voulez, je vous propose un truc, puisque vous avez pas le temps. Moi, j'en ai un peu, et donc du coup, j'aurais proposé avec mon ex-mari de l'époque, qui s'est occupé de la charte graphique. Du coup, c'est lui qui a créé le logo Graou. Enfin, on l'a fait ensemble, et il a créé tout le principe de la maquette. Et moi, du coup, j'ai recherché les personnages, etc. Et puis bon, c'était prêt à l'emploi. Et voilà. Et on en est au 42e numéro. Ça fait 5 ans. Et donc.
Et puis autant d'aventures pour
ouais,
Graou, quoi.
Parce ouais.
que j'avoue que quand tu nous as contactés,
ouais.
moi j'étais resté là-dessus. Tu vois, genre Gwé, Graou, Georges, tout ça. Et puis après, quand on a été voir ton boulot, c'est dingue toute ta production en fait, toutes
oui.
les autres choses que
ouais.
tu as développées, que tu fais à côté, c'est.
Ouais.
Bon. Je suis pas étonné avec le TDAH, tu vois, du coup, ça s'explique un petit peu.
Ouais.
Ce sont souvent des profils très...
hyperactifs.
Prolifiques, ouais, c'est ça, hyperactifs. Mais donc, voilà, moi, j'étais resté là-dessus, donc...
Et oui, parce que, tu vois, à force de trop...
Tu t'es fait connaître avec ça, peut-être aussi.
Je me suis fait connaître avec Jeannot. Vraiment, c'est Jeannot, parce que je suis restée quand même 10 ans chez eux. Je travaille encore, toujours avec
eux. On rappelle, hein, ils sont spécialisés dans
les
jouets. Voilà.
Donc, ils font vraiment du jouet. Et j'ai été en contrat exclu pendant des années avec eux. Donc là, je sortais une trentaine de produits par an. Donc, puis Jeannot, c'est une marque internationale très, très visible.
Oui, c'est
donc,
beau.
C'est très beau, ouais. C'est super.
C'est super grisant d'avoir ces.
Ouais, ouais.
Ces
pour moi, c'était. C'est génial.
Ça.
Moi, j'avais vraiment envie de ça. Et même avec le graphisme, etc. Ce qui me plaît à la fin, c'est d'avoir l'objet fini. Et c'est vrai qu'avec le jouet, d'avoir le bois en plus, les peintures, le carton, les mélanges de matières, c'est le volume. C'est vraiment hyper satisfaisant.
Au niveau du travail de commande justement pour le jouet, quelles sont vraiment les grosses différences entre une commande d'illustration pure et dure et une commande pour du jouet? Comment ça se passe?
Il n'y a pas de grande différence, je trouve, si ce n'est que quand tu travailles sur du volume, c'est bien qu'il y ait le designer dans les parages parce qu'il y a quelques contraintes techniques. C'est quelques contraintes techniques supplémentaires, mais pas tant, parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, tous les livres que je fais, c'est beaucoup des livres jeux, donc avec des flaps, avec des découpes, etc. Donc c'est les mêmes contraintes techniques que le jouet finalement, parce que dans le jouet il y a quand même, c'est assez simple, il y a beaucoup de puzzles, donc c'est les découpes des puzzles, beaucoup de jouets carton, beaucoup de dessins à plat, donc il y a pas plus de contraintes que dans le livre en fait. Et même en termes de cible, bon voilà, faut juste, là on est plus soumis à une question de tendance couleur parce que ça reste
ouais.
de l'objet, ça reste un peu de la déco, mais bon, tout ça se ça se fait
ouais, c'est des saisonnalités, quoi.
Ouais,
voilà.
Ouais, ouais, vraiment. Et puis, bon, le jouet, il y a quand même une exigence commerciale derrière qui est un peu plus forte. Il y a une prise de risque, enfin, il y a une petite pression quand même. Donc, il y a un besoin de se renouveler énormément. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup produit. C'est que faut tout le temps qu'il y ait un turnover de produits. Donc, moi, c'est vrai que c'est ça qui a fini par me lasser aussi avec l'illustration. Parce que tu dis, j'ai fait beaucoup de choses. Oui, donc il y a eu tous ces jouets qui ont été produits, tous ces livres. J'en ai à peu près une soixantaine aujourd'hui.
T'as illustré 60 livres.
Ouais, en fait, j'ai compté, j'ai fait, on en est à 60. Et personne ne le sait, mais moi-même, non. Parce que je suis une espèce d'usine à produire. Et ça m'a vraiment gênée.
Gênée comment?
gênée physiquement, gênée. En fait, je me suis dit, c'était pas possible, en fait, que tu deviennes une industrie à chier des images. Pardon pour le mot, mais à un moment, étant donné qu'en plus on fait un métier qui est pas non plus payé des milliers des cents pour que ce soit rentable, c'est bien d'accumuler.
Mais il faut beaucoup travailler.
Faut beaucoup travailler. Donc
œuvrer. On utilise ce mot.
Ouais, oui, j'aime bien. Ouais. Je le replacerai ailleurs.
C'est important, ça m'a dit, ouais, parce que. T'es presque en train de parler du Graal et de cracher dans la soupe en même temps.
Ouais.
On va en parler de ça.
Ouais.
Mais oui, en fait, c'est ce que tu nous dis, c'est de se rendre compte aussi que quand on a le succès et que les commandes arrivent, en fait, ça crée des nouveaux problèmes aussi.
Ouais, bien sûr, le problème de la surcharge, de tes limites personnelles, tes ressources, déjà en créativité, tes ressources physiques.
Et parce que t'es pas une usine, tu restes une personne
et
individuelle.
Ouais, exactement, et t'es pas une usine à idées, donc.
Attends, à un moment donné, t'atteins une sorte de stade où l'affaire tourne tellement bien que tu produis, tu chies les images comme tu dis, mais vient ce questionnement de « mais je suis pas une usine, je suis une personne
ouais. ».
Comment tu gères ce tournant ? Parce que beaucoup de personnes éventuellement qui nous écoutent, quelque part tu incarnes cette idée d'un succès commercial. T'es pas connu de tout le monde, mais t'as une affaire qui tourne, quoi,
ouais.
Tu vois ? Et
oui,
donc
oui.
Du coup... voilà, comment t'as vécu ce
moment-là, j'ai cru que j'allais faire un deuxième burn-out. Déjà.
Tu es abonnée.
Ouais, je suis abonnée, mais typiquement, les TDAH sont en première ligne d'ailleurs de.
Oui,
mais
c'est pas surprenant.
Les premiers clients du burn-out, puisqu'on se surcharge trop, qu'on n'écoute pas assez ses besoins et ses limites. Mais, donc, deuxième burn-out, et c'est la question du rendement financier et la question du plaisir créatif qui est une cohabitation pas toujours évidente. Et moi, j'ai eu envie de tout envoyer bouler quand même à un moment. Enfin, j'ai eu un gros ras-le-bol. Et d'ailleurs, ce gros ras-le-bol m'a complètement fait à nouveau changer de dynamique parce que je me suis dit, bon, super, 60 bouquins, tout autant de jouets. Enfin, il y a un moment, ça s'annule.
T'as coché, quoi, voilà.
Ouais, c'est ça, puis ça s'annule, tu vois. Ouais. La preuve, en plus, je me suis dit, en plus, personne vraiment te connaît. C'est-à-dire que tes jouets, ils sont dans les placards de tout le monde, tes livres, ils sont dans toutes les bibliothèques, etc. Mais en fait, on te connaît pas vraiment. C'est-à-dire, je fais partie du décor, donc...
T'aurais aimé être plus connu, toi?
Parce que... je pense que... Je sais pas si c'est le mot connu.
Parce que jusque-là, tu... Je me permets, mais tu me disais en off que tu te planquais derrière tes dessins.
Ouais, c'est ça.
Donc du coup, il y a ce truc
de... Il y a un paradoxe, tu vois.
T'assumais le fait de... C'est ta production, c'est tes images devant.
Ouais.
Mais qui est Gwé ? On sait pas qui elle est.
Je voulais pas trop, voilà.
Et puis, pourquoi tu voulais pas ?
Tu sais que c'est encore des questions que je me pose maintenant, auxquelles je réponds. Maintenant, je peux te le dire. Je voulais pas, parce que je voulais pas qu'on voit la personne vulnérable que j'étais. Je voulais pas qu'on voit la personne fuckée que je pouvais être. Je voulais pas qu'on me critique aussi. Je voulais pas qu'on critique mon travail. Donc, c'est facile de se cacher derrière un avatar et un diminutif, puisque, en fait, un diminutif, franchement,
c'est un blaze.
C'est un blaze et donc ça passe à la trappe, tu vois, qu'un nom, un prénom, il y a quelque chose qui est plus ancré.
Ah, bien sûr.
Donc c'est pour ça que plus tard, j'ai choisi de signer mes ouvrages avec mon nom, mon prénom, pour arrêter de me diminuer. Mais il y avait ça aussi, tu vois, de se faire un peu petite, rester. C'était le paradoxe de
l'humilité de l'artisan.
Ouais. Ouais, puis de la petite fille encore, tu vois, non. Ce petit truc là, un peu inconscient. Et en même temps, la petite fille qui a envie de dire, t'as vu mon dessin? Est-ce que tu le trouves beau? Est-ce que tu le trouves beau?
Ouais,
quoi,
voilà, c'est vraiment la recherche de reconnaissance, quoi.
Mais je pense qu'on est nombreux à parler
de validation.
Ça. Moi, ce que tu décris là, mais je pense que les deux tiers de ma carrière d'illustrateur, c'était courir après. Je sens même que Sens Créatif a contribué en partie à ça. C'était genre, c'était montrer à mon papa, regarde mon dessin,
ouais,
il est
beau. C'est
beau,
hein.
C'est beau. Mm. Et puis, que quand tu reçois peut-être pas la, vu que c'est des métiers qui sont pas très connus, on te prend pas au sérieux, et que quelque part, t'as besoin de redoubler d'énergie, de professionnalisme, de cocher des clients, d'avoir des marques prestigieuses, des accolades, des prix, je sais pas, des magazines, machin, pour dire, c'est du sérieux. Et puis moi, j'en ai fait un podcast en mode, si vous ne croyez pas, écoutez tous ces gens et vous voyez à quel point c'est du sérieux. Et donc, il y a vraiment, moi, je me reconnais dans ce que tu dis, dans ce besoin de reconnaissance.
Oui.
Et pour la minuscule histoire, je sais que Sens Créatif a contribué, pour ma part, à calmer ça, parce qu'au bout d'un certain temps, c'est bon, c'est genre, ok, c'est bon, on t'a vu, on t'a entendu, on t'a validé, tu peux avancer, vas-y. Mais c'est vrai qu'on peut longtemps s'évertuer, c'est bien d'être conscient de pourquoi on fait ce type de métier, qu'est-ce qu'on vient chercher, au-delà de j'aime la créativité, je veux gagner ma vie en faisant des petits lapins, des petits dessins, quelque part, il y a quelque chose de plus profond derrière. Oui. Et moi, je sais que quelque part, il y avait un peu une forme de un peu une quête égotique, quoi, quelque part.
Mais tous, alors on va pas se mentir.
Voilà, on va pas se mentir,
tous
merci.
Les artistes se cherchent dans ce qu'ils font, parlent d'eux. On fait pas ça pour la beauté de l'art, on fait ça pour notre gueule. Petite anecdote, le nombre de fois où on m'a dit « Oh là là, tu fais ça pour les enfants, c'est super, ils doivent être trop contents. » Mais c'est terrible, je vais casser un mythe, je m'en fous un peu de ce qu'ils pensent les enfants. Je le fais pour moi et ma pomme, quoi. Mmh. Donc après, je suis ravie, évidemment, quand je
oui,
je
l'un n'empêche pas l'autre.
Voilà. Mais vraiment, si je suis très honnête avec mon intention, elle est pour moi. Et puis, en fait, mon intention, elle est pour mon enfant intérieur, en fait.
Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Si t'as un enfant à qui t'adresser,
c'est moi, c'est la petite fille intérieure qui vient de ce monde violent, qui a vécu ses traumas et qui a besoin de se recréer son petit monde magique.
Et qui s'appelait Gwenaëlle.
Mais qu'on appelait Jagoué, en fait. Hein, il y a eu, en fait, pour la petite histoire aussi, c'est qu'on m'appelait Gwenaëlle pour m'engueuler quand
oui,
j'étais petite. Donc, j'avais pas envie de signer Gwenaëlle. Il y avait
c'était le diminutif
mignon, affectif, donc affectueux. Donc, je préférais... En tout cas, ça sonne comme ça. Gwé, il y a quelque chose de... Tout de suite, ça éveille quelque chose de rassuré chez moi.
Et comment toutes ces années, jusqu'à arriver à ce truc de ras-le-bol, hein,
ouais.
Et comment toutes ces années, cette production, cette prolifération est venue... colmater ou rassurer jusqu'à un point où tu t'es assumé et plus affiché. Mais toutes ces années, j'imagine que ça a dû te faire du bien de te réaliser visuellement, graphiquement, artistiquement, professionnellement.
C'est même devenu un refuge, une obsession. C'est-à-dire que j'avais que envie de faire ça, en fait. Peut-être le seul espace où j'étais un peu en paix, bien que burn-out et machin, parce que t'as ton entreprise artistique, c'est autre chose, mais moi, les vacances, faut pas que ça dure trop longtemps, parce qu'à un moment, faut que je me remette à dessiner,
ah oui,
quoi.
Si tu déconnectes, c'est pas très bon, en fait.
Je me sens perdue, en fait. Enfin, j'ai hyper besoin, c'est une respiration, enfin, créer, c'est vital chez moi. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment ils font les gens qui ont pas de fibre artistique. Je me dis, ça doit être d'un ennui mortel, la vie, en fait. Je sais que j'ai ça, même
c'est
quand je
serai...
Ouais, bah en tout cas, tu peux t'inventer ta vie, tu peux lui donner de la saveur, des couleurs, ou en faire un espace d'expression de colère, peu importe. Mais c'est la création dont on parle quand même, quoi. Mmh. C'est un peu divin, en fait, d'avoir cette manne pour soi. Donc, ça y est, je digresse. C'était quoi le fil de la question? Je te pointe du doigt,
Jérémy.
Non,
c'est en quoi toute cette créativité, toute cette activité profession artistique que tu as développée est venue colmater les brèches de ton vécu, et parce que ça t'a épanoui.
Ouais, ça m'a vraiment épanoui, ça m'a construit même. Et puis parce que cette reconnaissance, j'ai fini par l'avoir, parce que notamment ma première dédicace, ça m'a fait auto plaisir dans le sens où j'étais partie la dernière fois du salon du livre de Montreuil à 20 ans en pleurs, et j'y suis revenue à 30 ans pour signer un livre, et là je me suis dit bon super, il aura fallu 10 ans, mais
faut escalader l'Everest.
Voilà.
Mais t'as cherché quoi pendant 10 ans?
Ben déjà il y a eu j'ai cherché la qualité, c'est-à-dire pendant 10 ans, en fait, j'étais graphiste. Et c'est là que j'ai forgé mon œil, mon sens de la composition dans une page, la typo, d'avoir des images nickel. J'étais à l'école, en fait, quelque part. J'ai cherché mon style pendant 10 ans et je me suis essayée sur des supports qui étaient moins dangereux, parce, entre guillemets, où on se met moins en avant puisqu'on est graphiste, donc on signe pour une marque,
oui,
on est derrière.
On est au service, voilà, du projet.
Ouais, c'est différent. Donc, même si on signe, s'en fout. Là, franchement, pour s'y connaître dans le milieu du graphisme, faut être vraiment très, très...
Bien sûr, les rockstars du graphisme sont appréciés des aficionados du graphisme.
Du graphisme, voilà c'est
Stéphane
ça.
Stéphane Zagmeister, tout ça.
Oui, et tant d'autres.
Les Melems.
Mais en tout cas, tes parents, ils connaissent pas. Que, par exemple, ils vont quand même connaître un peu Sampé ou Hergé, tu vois, en dessin. Mais c'est vrai que pour le graphisme, là, on en perd beaucoup. Mais en tout cas, j'ai vraiment fait mes armes en ce qui concerne travailler le visuel.
C'était
et...
une quête d'excellence.
Ouais, je sais pas si c'était conscient ça, tu vois. Après moi je dois avoir ce truc très je dois pas, je suis hyper exigeante, hyper perfectionniste. Donc oui, ça devait être mené par une quête d'excellence. Et il s'avère aussi que j'étais entourée de gens très bons, quoi. Enfin, j'avais mon ex-mari était un excellent graphiste, toujours un excellent graphiste. Voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de potes qui bossaient chez Publicis. J'avais beaucoup de potes street artistes. J'avais beaucoup de d'amis illustratrices brillantes. Et c'est toujours le cas.
Bah, on parlait de goût, de culture graphique. Ouais. C'est complètement ça.
Et ça tire vers le haut, en fait. Enfin, ça challenge en tout cas. Donc, il y avait aussi un truc, envie de faire sa place dans découdre et puis d'essayer de mettre un peu qui je suis là-dedans sans faire du comme on fait tout le monde, quoi, entre guillemets. Donc je me cherchais aussi beaucoup.
C'est quoi du comme on fait tout le monde?
Je pense que quand on démarre, enfin, d'ailleurs il y a un sujet dans les écoles d'art qui s'appelle à la manière de. Au début on cherche un peu pas ses mentors, mais
c'est rôle modèle.
C'est rôle modèle, voilà. Je cherchais, merci. Et on a envie de faire un peu comme eux. On est puis en plus le métier de graphiste, c'est vraiment un métier à la mode, quoi. Faut être
Cool.
Ouais, c'est cool, et puis il faut quand même être dans les tendances, etc. Donc c'est très branché, mais bon, ça se débranche très vite aussi. Mais donc je me cherchais entre ce qu'il faut déposer dans la tendance et en même temps le petit appel de fond personnel qui a envie d'y mettre sa patte quand même un peu Barbie, un peu girly, un peu truc qui me caractérise.
Pourquoi?
Bah je sais pas, c'est comme ça en fait. Je suis très très fille. Enfin, c'est des codes qui sont malgré moi en fait, que j'assume, qui m'ont gênée à un moment parce que ça peut vite être pointé, moqué justement quand on fait des trucs mignons, quand on fait des trucs pour les petits ou pour les filles. Déjà la manière dont je le dis, ça peut être vite caricaturé.
Je peux te poser une question à la con, fille ou femme?
Ben maintenant, femme, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait tout ce volet-là. J'ai cherché la petite fille que j'ai pu faire jouer pendant hyper longtemps avec l'illustration jeunesse, jusqu'au ras-le-bol, où j'en ai marre d'être toute seule dans mon coin. J'en ai marre de faire des trucs pour les enfants. J'ai quand même bientôt... Enfin, à l'époque, j'allais sur mes 40 ans. J'avais aussi cette femme qui avait besoin de s'exprimer dans l'illustration et dans la vie. Et donc, j'ai encore pris un virage. J'ai des sets de 10 ans, en fait. Voilà. 10 ans graphiste, 10 ans illustratrice. Et là, bah, depuis que j'ai 40 ans, j'ouvre un nouveau volet où là, on est plus du tout chez les enfants, en fait.
Alors, comment t'as vécu la crise et comment elle s'est transformée?
La crise, elle a convergé avec ce ras-le-bol dont je vous ai parlé.
T'avais tout coché sur ta bucket list.
Ouais, voilà.
T'as eu fait deux burn-out, t'en as marre d'être dans l'ombre.
Ouais.
T'as suffisamment eu des clients de qualité et t'as pu affiner ta patte pour te dire « Now it's my time ».
Yes, c'est ça. Exactement. Je me le suis pas dit comme ça, mais c'était l'élan qui poussait à l'intérieur.
Une pulsion de vie.
Une pulsion de vie qui a corrélé avec mes 40 ans et le divorce douloureux avec mon ex-mari, où là tout s'est un peu écroulé. Pour la petite histoire aussi, ma mère est morte quand elle avait 40 ans, donc moi j'approchais de l'âge fatidique avec ma grand-mère, sa mère est aussi morte à 40 ans, donc il y avait
un milestone,
voilà, il y avait un gros
truc.
Tu dis là j'arrive à une deadline flippante, donc
tu portes le poids finalement
de la lignée
en fait,
qui s'est heureusement pas manifestée de manière trash comme ça a été, mais différemment en tout cas. Donc en tout cas tout s'est effondré, vas-y.
je vais faire ma Mireille Dumas. Tu vois ça comme une petite mort en fait dans ta vie par rapport à
complètement.
Vous le voyez pas, mais Laurent, elle a changé de posture.
Je mets Mireille Dumas,
hyper intéressé.
Laurent Delahousse, voilà.
Je vois surtout ça comme une naissance.
Allez.
Mon cher Laurent.
Comme il fait, allez.
Ça te va, naissance, petite mort
et renaissance.
Vraiment, un peu mon vrai moi est arrivé à 40 ans, quoi. Dans tout cet effondrement, parce que c'était pas facile. Et donc, entre, une grosse remise en question professionnelle, une grosse remise en question, personnelle, parce que 40 ans, parce que célibataire, parce que, à 40 ans, pour l'instant, alors, ça change depuis pas longtemps, mais, la femme qui vieillit n'a pas bonne presse. On nous véhicule des images en fait de passer 40 ans. Voilà, la femme devient invisible, que ça va être de plus en plus difficile de trouver un compagnon. Enfin, donc avec des angoisses pas possibles, je me suis dit mais merde, je vais me retrouver toute seule à m'autogérer. Puis en plus quand on sait que les femmes sont quand même en première ligne du seuil de pauvreté en France. Tout ça m'a vraiment beaucoup inquiétée. Et du coup, je me suis dit, si je commence à rentrer dans cette sinistrose-là, je vais pas y arriver. Il faut que je m'invente justement des modèles féminins. En tout cas, il faut que je visualise des modèles féminins inspirants de femmes qui ont la cinquantaine, soixantaine passée, qui sont épanouies, qui réussissent dans la vie. Donc, je me suis mis à aller lire des livres voilà sur des femmes. Je pense à Perla Servan-Schreiber, par exemple, ou voilà des femmes qui passaient 60 ans ont l'air de et en fait il y en a pas beaucoup, je me suis rendu compte qu'il y en avait pas tant, et j'avais besoin d'ancrer, en tout cas de visualiser mon futur pour être une femme libre et épanouie, et pourquoi pas riche, parce que j'avais l'impression que c'est on nous offre pas grand chose quoi. Et je suis tombée par hasard sur une femme de 60 ans, justement, qui avait l'air rayonnante et avait une sexualité épanouie. Je me suis dit, je veux être comme elle. Et il s'avérait qu'elle était coach en sensualité. Et donc, je me suis offert un coaching en sensualité avec elle. Et ça a été une énorme révélation parce que cette femme m'a appris vraiment à me connecter à la femme que je suis, à mon sauvage, à mon sacré, à ma créativité, à ma sexualité assumée. Et en fait, ça a vraiment changé ma vie sur tous les plans. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'il y a une lumière qui s'allumait et ça a tout attiré. Et je me suis dit, je peux pas garder ça pour moi, là, ce que je viens de vivre. Il faut que d'autres femmes vivent ce que j'ai vécu, parce qu'on nous cache des trucs, mais il y a des vraies solutions pour que les femmes aiment leur corps, soient heureuses en amour. Enfin voilà, là, ça fait un peu style agence matrimoniale, mon machin, mais... Mais vraiment, enfin, ça a bouleversé ma vie, et donc je me suis formée. J'ai demandé à cette femme qu'elle me forme au coaching en sensualité pour que je puisse partager aussi ça autour de moi. Et donc, il a fallu que je me forme au coaching de vie, etc., etc. Et chemin faisant, donc je me suis mis à développer une autre activité qui avait donc rien à voir.
Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire. On est complètement, on est plus dans l'image en fait.
On est complètement dans l'image. Alors,
et tu continues d'en faire.
Je continue d'en faire. Alors, je continue, oui, parce que ça, c'est mon objectif de cette année, c'est faire des choix. C'est un moment de pas tout faire. Voilà. Mais moi, je faisais encore tout. Donc, je continuais l'illustration jeunesse.
Cela dit, c'est bien de dire que tu peux cumuler. Tu n'es pas obligé de switcher complètement.
Non, et il faut pas. Voilà. C'est pour ceux-là qui nous écoutent et qui disent « Ouais, moi aussi, j'ai trop envie d'être autre chose, infirmière, sage-femme, doula, alors que je suis plasticienne. » Faites les deux en même temps, mais pas ne lâchez pas la proie pour l'ombre, parce que voilà, c'est long à mettre en place.
C'est fastidieux, mais c'est possible.
C'est carrément possible. Et en fait, c'est hyper enrichissant. Parce que moi, là, ça y est, j'avais un peu toutes les palettes de qui je suis. Nous sommes tous multifacettes, multipotentiels. Et en fait, ça nous sort de la frustration que de pouvoir expérimenter tous nos talents. Jérémy, tu sais de quoi je parle. Tu fais ton podcast et t'es illustrateur. D'ailleurs, tu lâches ton activité d'illustrateur. Mais voilà, moi, je pense que donc ça a marché cette histoire parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui cherchent à développer tout leur potentiel, etc. Et voilà, donc j'accompagne parallèlement et j'utilise ma patte du coup d'illustratrice pour communiquer sur cette activité de coach. Je m'en sers aussi beaucoup parce que j'ai découvert dans mes affres et mes angoisses existentielles que j'ai rencontrées avec cette naissance, mort et renaissance. J'ai découvert, alors là, attention, je vais perdre la moitié des gens, un pan plus ésotérique de la vie, mais avec les oracles, avec le tarot de Marseille, avec le travail de Jung sur l'inconscient, etc.
Mais d'ailleurs, l'oracle est une manière de ramener aussi à l'image, puisque c'est...
Complètement.
Et ça marche très bien, ce moment-là.
Ça marche hyper bien.
Le tarot aussi. Hein.
Et le tarot aussi, c'est... en fait, on est un héritage de symboles en vérité quoi. Moi c'est ça ce que j'ai compris, la vie nous parle par symboles ancestraux en fait. Et donc tous ces jeux un peu magiques quand même, parce que c'est assez fabuleux, je trouve que c'est des jeux extraordinaires pour la connaissance de soi. En tout cas moi ça m'a beaucoup guidée pour m'aider à m'équilibrer en fait dans cette période difficile. Et moi dès que j'aime un truc, je veux le faire, je veux en être. Donc du coup je me suis mis à créer des oracles et à dessiner.
T'en as fait combien là jusqu'à...
J'en suis au 5e et là j'en commence un 6e qui va être trop cool. Mais j'en suis au 5e.
C'est quoi de créer un oracle?
Et ben
je connais pas très bien.
Ah oui, explique le principe des oracles.
Alors ouais, parce qu'il y a soit les jeux de tarot de Marseille qu'on connaît. Il y en a deux d'ailleurs. Il y a le français et le Rider-Waite-Smith qui est anglais, mais où c'est les mêmes symboles. Où là, on est vraiment sur les arcanes majeures, les arcanes mineures.
Du traditionnel, en fait, ouais, la lecture traditionnelle de Descartes.
Il y a tout un sens où on part du principe que justement la croissance humaine est un chemin d'éveil, en fait, et donc du coup, le tarot nous accompagne dans notre éveil. Et les oracles, c'est des outils un peu du même acabit où vraiment on va tirer des cartes, en fait, des images symboliques qui vont résonner avec qui nous sommes. Alors c'est assez magique.
Par contre, c'est ouvert les oracles, c'est-à-dire qu'en fait, ton travail d'écriture d'autrice sur les oracles,
ouais.
En fait, tu peux partir sur la thématique que tu veux, raconter l'histoire que tu veux dans l'oracle.
Ouais. Et alors là, j'ai eu des trucs un peu mystiques avec les oracles parce que les deux premiers que j'ai faits, je les ai que dessinés. Donc là, c'est une chamane en fait qui avait écrit les textes et donc moi, j'ai que illustré. Et après, j'en ai écrit deux aussi, mais c'était vraiment le truc un peu de sorcière, quoi. Tu te réveilles la nuit à 3h33 du matin et puis tout d'un coup, t'as une espèce de téléchargement dans ton cerveau où tu notes plein de trucs et puis t'es crevé et puis en fait, tu te réveilles le matin, tu dis en fait, c'est un jeu d'oracle. Donc là, il y a un truc un peu, tu vois, mystique, quoi. J'ai fait deux fois cette expérience sur les deux oracles que j'ai écrits et que j'ai dessinés. Donc ça, c'est vraiment... spécifiquement des outils qui me caractérisent pleinement parce que écrit, parce que dessiné, parce que ça parle de mon vécu aussi, c'est pas gratuit tout ça, hein,
ça dit quoi, ton vécu?
Je pense que j'ai traversé quand même beaucoup d'épreuves et beaucoup de palettes émotionnelles et ça a été vraiment un parcours du combattant que de trouver l'équilibre. Et plein de moments où j'étais égarée, perdue et pas bien. Et en fait, ben mine de rien, tout ça, ça a créé des expériences hyper enrichissantes qui fait que je suis quand même assez câblée sur l'autre maintenant. Ça m'intéresse, moi, la science de l'humain, en fait. Comment fonctionne un être humain? Je crois que c'est vraiment ça qui me fascine. Absolument. Et je me rends compte qu'on a aussi plein de points communs. On a des émotions communes. On a des blessures communes. Et tout ça, ça sert, en fait, dans un jeu d'oracle pour, dans le cheminement des autres parce que, bah, il y a plein de gens qui sont perdus, ne savent pas exactement comment ils fonctionnent, qui ont besoin aussi beaucoup de gens, répondre à des injonctions familiales, tu sais de quoi je parle aussi, ou à des injonctions sociales, et donc du coup se perdent en route ou ne se sont jamais trouvés. La question du sens de la vie, c'est quand même une question qui nous unit pour beaucoup. Et je trouve que l'oracle permet vraiment d'aller plonger dans sa vérité, son authenticité, mieux se connaître. Et du coup, ça me fait ultra kiffer de faire des outils comme ça, parce que là, j'ai l'impression que ce que je fais a du sens. Je crois que dans tout ça, j'avais vraiment besoin de trouver un sens à ce que je fais. J'ai envie d'œuvrer. Je l'ai placé. J'ai mis œuvrer.
Two points.
Œuvrer pour la vie, ouais. Tu vois. Œuvrer pour les autres, œuvrer pour la vie, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'ailleurs, maintenant je le choisis. Je choisis mes batailles et je choisis mes projets. Et il faut vraiment que ça ait un sens pour les autres et pour la vie. Il faut que ça serve ça. Ça, c'est ce que j'ai gagné aussi. Et donc, il y a plein de choses que je vais laisser sur le carreau parce que ça sert que à faire du chiffre et ça m'intéresse plus du tout.
Tu vas laisser quoi?
C'est quoi tes expérimentations et quelles sont celles que tu vas laisser de côté et quelles sont celles que tu vas poursuivre?
Ben, en fait, je pense qu'à terme, je vais arrêter l'illustration jeunesse. Déjà parce que j'ai guéri ma petite fille intérieure, donc j'ai plus besoin de jouer.
C'est case cochée.
Oui, c'est marrant. Parce que c'est une boucle.
Eh ben oui, et moi, ce que je trouve fascinant dans ton parcours, c'est que t'as coché des cases. Au départ, ce que tu pensais être l'idéal, t'es allé le cocher. Et quand tu as coché ces cases-là, tu t'es rendu compte qu'en fait, il y avait des autres cases à cocher derrière, comme si t'avais des collines à passer à chaque fois et que ça te révélait quelque chose. Tu voulais dire, Jérémy?
Ce que je trouve aussi super intéressant, ce que tu dis, c'est que pour beaucoup de personnes, les carrières artistiques sont une fin, quelque part, c'est un objectif, que dans ce que j'entends, ce sont des chapitres, des étapes qui te permettent de passer, c'est un moyen, pas une fin, et on en parlait en off juste avant, de créer pour se trouver, créer pour transcender, create to unfold your inner self, et c'est chouette parce que du coup c'est il y a parfois des personnes qui quelque part peut-être guérissent leur enfant intérieur, rencontrent du succès et qui font ça bien, et puis après c'est une affaire qui tourne Bon, toi, le fait que t'as un TDAH, ça t'a sûrement pas aidé à tourner en rond, donc du coup, t'as besoin de bouger. Mais où il pourrait y avoir un truc un peu ronronnant, un peu voilà, que
satisfaisant.
Oui, satisfaisant. Et il y a pas de mal à ça.
T'es pas satisfait.
Mais non. En fait, c'est trop chouette de voir. Tu boucles une boucle, tu te dis OK, check. Ça m'amène à la chose suivante. Et c'est un mouvement. C'est la vie, quoi. C'est genre équilibre, déséquilibre. Et tu continues d'avancer sans que le dessin ou la ce soit une finalité, quoi. Tu te laisses vivre, tu te laisses
exactement
porter.
mais je crois qu'en plus on se fait c'est important de comprendre ça, c'est un peu dur aussi hein,
oui.
de
vrai tout ce temps pour finalement en
ouais,
fait
mais la vie c'est ça en ouais. fait
et merde
c'est...
ça fait chier en fait quand quelque chose devient satisfaisant en fait ça n'est pas satisfaisant.
Mais les Chinois bon expliquent très très bien dans le symbole du Taiji qui est le symbole du Yin et du Yang que vous voyez, donc ces espèces de deux poissons, enfin de formes de très abstraites de poissons blancs et noirs
entremêlés.
Et en fait, tout est résumé là-dedans. Donc la forme ronde parce que c'est le cycle de la vie, l'équilibre, mais pas l'équilibre binaire, l'équilibre entre
dynamique.
Entre les pôles et qui a toujours un peu de blanc dans le noir et de noir dans le blanc avec ces petits point. Et en fait, on sent que le Taiji peut rouler. D'ailleurs, il y a cette espèce de dynamo créé par le bien, le mal, ou le noir, le blanc, le chaud, le froid, la vie, la mort. Et c'est un cycle sans fin. C'est-à-dire que ça monte et ça descend. Donc, moi, j'y pense tout le temps. Quand j'arrive en haut, en ce moment, je suis dans une période up. Je sais.
Coucou le Don.
Je sais que ça va redescendre parce que c'est comme ça, en fait. C'est même, et donc ça sert à rien de lutter contre.
Tout le fait d'accepter, en fait, et d'être en accueil.
Exactement. Bah, c'est moins douloureux, entre guillemets, ou en même temps, quand on est en bas, on est bien content de savoir que ça va pas durer. Mais voilà, je sais plus quel philosophe disait, bah, c'était Socrate qui disait, la seule certitude que j'ai, c'est que y a rien de stable. Enfin, elle est complètement nulle, ma citation. Mais vous avez compris.
On voit l'idée.
Oui,
la seule certitude qu'il a, c'est qu'il a aucune certitude.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
Voilà,
merci.
C'est rassurant de savoir que c'est pas rassurant.
Et c'est comme ça, en fait. Il y a rien. En tout cas, la vie est un éternel mouvement. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est chiant.
Mais c'est la vie. C'est comme ça. Autant l'accueillir le plus tôt possible.
Et puis de se laisser, du coup, quand on accueille comme ça, quand on accueille le jeu, hein, de ce mouvement infini, on peut aussi se laisser surprendre par le cours des choses, là où ça nous amène. Moi, je trouve ça cool de dire oui, quand même, même si des fois c'est fatigant. Moi, j'ai envie de dire oui à ce qui est proposé.
Le grand oui à la vie.
Et puis ça challenge, quoi. Enfin, alors moi, je flippe tout le temps. Je deal avec la peur en permanence. Je me sens jamais à la hauteur, etc. Mais en fait, c'est quand même ultra enrichissant et de dire oui à des trucs qui font flipper pour au moins connaître la nouveauté tout le temps et puis se découvrir des facettes de soi qu'on n'imaginait pas.
C'est quoi qui te fait flipper là? Enfin, je veux dire, en ce moment,
qu'est-ce qui me fait flipper? Encore une fois, la charge de travail que je me suis mis avec des des projets mais d'une envergure dingue sur des délais complètement courts où il y a une partie qui sait qui peut y arriver, puis une autre qui dit « tu vas encore cramer tes cartouches ». Mais on verra bien, j'ai dit oui. Donc voilà, c'est la peur de manquer de temps. Voilà, ça c'est toujours ça, ma grosse peur qui me court après en permanence. Quand c'est pas la peur de manquer tout court, d'ailleurs, en général. Mais bon, ça, je pense que c'est une peur commune
à partager. Hein.
Ouais, d'entre nous.
C'est pas facile, hein, je trouve, la peur de manquer, surtout aussi dans ce type de métier. Où il faut, pour tirer son épingle du jeu,
soit être
extrêmement doué, soit énormément devoir travailler, et c'est souvent un mix des deux, pour vraiment joindre les deux bouts.
Ouais.
Enfin, nous, on a tout le temps défendu le fait que on peut décemment gagner sa vie en faisant ce type de métier, mais que faut sortir les doigts et que c'est pas toujours simple. Mais voilà, cette peur de manquer, on l'entend, hein, avec toutes les personnes qu'on côtoie, que ce soit pour le podcast ou la quête de notre formation ou nos auditories, ou cette peur de manquer, elle nous prend à la gorge comme ça, tout le monde, et puis parfois ça nous pousse à prendre des mauvaises décisions.
Ah oui.
On va accueillir, on va accepter des jobs et tout, qui finalement vont pas dans notre ikigai.
C'est les putains de vraies questions.
Ouais, et du coup, tu, enfin, par un moment, il faudrait renoncer, mais tu sais, t'as rien derrière. Ouais. T'as peur de manquer, c'est chaud, quoi.
Alors, tu crois que t'as rien derrière, mais comme la vie,
cool, c'est le futur.
En fait, ça remplit toujours. Mais, ouais, c'est histoire de peur de manquer. Et en même temps, je m'en suis rendu compte sur un des moult travail thérapeutique que j'ai pu faire. Moi, j'avais l'impression que c'était ma bête noire, la peur de manquer. Et j'ai vu dans ce travail thérapeutique à quel point c'était mon souffle de vie. C'est le truc qui me botte le cul, c'est le truc qui me lève le matin, c'est le truc qui me force à pas m'endormir sur mes lauriers. En fait,
tu l'as yin-yangé.
Ouais, je l'ai yin-yangé. Je l'ai vraiment, en tout cas, je l'ai transcendé. Cette peur de manquer, je me suis dit, en fait, elle est hyper motrice. Donc, quand j'ai à nouveau des grosses flips comme ça qui peuvent m'étreindre souvent en début d'année, parce que faut tout recommencer à zéro et qu'on sait jamais si ça va marcher, etc. Il y a quand même une autre petite voix qui dit, écoute, tu sais pas quoi. C'est ce qu'il dit à Christian Junot. Il dit je suis insécure et c'est ok. Ouais.
Je suis
sécure même avec et sans savoir comment ça va se passer.
Et c'est ok.
Et ça, j'essaye de me le répéter régulièrement.
Ce sont des mantras.
Ouais, ce sont des mantras, ouais, que je me répète pour le coup.
Et des mantras qui sont holistiques, c'est-à-dire qu'en fait, ils prennent un pôle et l'autre pôle.
Voilà,
pour nous mettre en situation
de neutralité et retrouver l'équilibre. Effectivement, en fait, tout est souffrant quand on lutte contre une partie, tout comme quand on lutte contre l'ennui ou quand on garde un projet parce qu'on a peur de manquer. Et en fait, on est en lutte contre un truc qu'on n'a plus envie de faire. Enfin, alors que on a toujours à gagner quelque chose quand on lâche. Mais qu'est-ce que ça fait peur?
Comment t'as fait pour lâcher et pour accueillir ces parties de toi plus compliqué?
Alors déjà, j'accepte de chialer. Ça, c'est clair. Moi, les larmes, c'est quand même très aidant.
Tu faisais pas avant?
Ah si, je suis une...
T'es une chialeuse.
Je suis une chialeuse, ouais. Ouais, ouais.
Mais là, tu chiales en conscience.
Maintenant, je chiale en conscience, ouais. Je sais que ça va me faire du bien, parce que ça va sécréter des hormones et tout, que après je vais aller beaucoup mieux. Mais non, mais j'ai... Juste, je sais que je suis courageuse, en fait. Parce que j'ai pas eu le choix. Souvent, il y a vraiment ce truc de t'es en haut du plongeoir, hein, il fait 30 mètres, faut y aller. Alors tu recules, mais en fait derrière ça s'écroule et en bas l'eau est froide. De toute façon, faut y aller. Donc je sais pas c'est quoi ce déclencheur qui fait que tu sautes, mais si ça s'écroule derrière, de toute façon, faut y aller quoi.
Bah c'est l'instinct de survie à l'envers en fait, parce que l'instinct de survie en général nous fait nous protéger. Et éviter le danger, ouais. Mais quand il s'inverse, parce que le danger est omniprésent, bah du coup l'instinct de survie nous pousse à aller vers l'avant, à faire le premier pas.
C'est l'instinct
le saut vers l'inconnu.
C'est forcément ça.
Encore le yin yang, c'est ouais. En fait il s'inverse, ouais. Et il nous pousse vers la bonne solution en fait, parce qu'on en fait t'en écoutes avec ton instinct, ouais. Et si t'as pas cette connexion là finalement avec ton inner self, bah c'est là en fait tu t'arrives
ça,
des merdes.
Ça je suis d'accord, ouais. C'est cette histoire du contrôle, en fait. C'est un subtil mélange d'un moment. Je te dis ça, moi, je suis une contrôle freak devant l'internet.
Bon Dieu, j'en ai deux devant moi.
Moi, faire du podcast, ça m'a aidé à lâcher prise.
Ouais.
Genre, pour moi, je crois vraiment que les trois premières années de Sens Créatif, c'était essayer de percer le secret du mystère au chocolat avec toutes ces personnes que j'allais rencontrer. Genre, comment vous faites, en fait, pour produire toutes ces merveilles là que vous produisez, et souvent ce qui ressort c'est cette sorte de lâcher prise, ouais. Auquel je crois que je n'ai jamais réussi à accéder.
C'est
vraiment
la quête de Willy Wonka.
Ah oui,
bah ouais, parce que Willy Wonka est ce personnage fantastique, merveilleux, et qui produit du chocolat, tout le monde l'idolâtre. En réalité, le gars, il est complètement fucked up derrière, quoi.
Ah ouais? Ah, faudrait que j'aille le voir.
Ah oui. Voilà. Bah, donc, moi, j'ai trouvé plus de lâcher prise, de spontanéité, ouais. Cette énergie, cette pulsion de vie dans, par exemple, ce qu'on est en train de vivre là.
Ouais.
Tout en ayant toujours une grande affection pour l'illustration évidemment, mais j'entendais toutes ces histoires chez tout c'était là quoi, c'était l'évidence dans leur production, et je me suis rendu compte que c'est que au fur et à mesure je me suis dit mais en fait ce que tu cherches Jérémy c'est du lâcher prise. Dans le lâcher prise il y a quelque chose de beau, de libre, de vulnérable, de tu t'ouvres aux possibilités, t'as les mains ouvertes, t'es plus dans le, parce que je sais que c'est pour ça Laurent dit, j'en ai deux devant moi. Moi, je suis profondément quelqu'un de de, j'ai un peu été conditionné comme ça. Je suis dans le contrôle, contrôle freak. Je pense qu'on est beaucoup finalement,
oui.
quels que soient nos parcours et nos arrière-plans. Et ça rend malheureux en fait. Mm. Ça rend mal. Et je crois que l'art ou la créativité, c'est cette quête de liberté et de lâcher prise. Et dans ce lâcher prise, on est aussi accueilli par l'autre qui nous
qui reçoit, qui
entend, qui regarde, qui lit ce qu'on produit, et il y a un échange qui se crée, quoi.
Ouais, et puis quand tu crées en plus une image, moi par exemple, je fais pas de croquis à l'avance. Je suis très admirative des gens qui font un croquis et après ils mettent en couleur. Moi, je sais pas faire, parce que justement, ce qui me plaît, c'est de construire. En même temps, en fait, mes images, elles se construisent au fur et à mesure.
Laurent, il fait pas de croquis non plus.
Tu fais pas de ah ouais.
T'as déjà vu ses dessins ? Il fallait pas le dire. Il y avait personne, bah, plus rien me commander.
Après, c'est des croquis.
Bah oui, en fait, moi, c'est impossible.
En fait, il dessine des villes avec plein de petits bonhommes, des perspectives, des trucs dingues, et il fait pas de croquis, le gars. Il fait tout un peu comme.
Il a un monde intérieur.
Bah non, mais
j'ai jamais compris. Ça fait 10 ans que je le connais. Je ne sais pas comment tu fais.
Bah ouais, parce qu'en fait, je mentalise, et après, j'ai besoin de faire.
Un peu comme dans Minecraft. Tu sais, quand t'avances, tu sais, il y a un espèce de décor flou, puis les trucs, ils apparaissent, les blocs,
ouais,
ils apparaissent.
Je pense que ça fonctionne
derrière.
Comme ça dans ma tête, en fait.
Ouais.
Et du coup, moi, c'est en faisant que je trouve les solutions. C'est pas en les imaginant à l'avance.
Moi, c'est pareil, en fait.
Pareil, me chercher des couleurs, non. Moi, j'ai besoin de les poser. En fait, pour moi, tout est de la pâte à modeler tout le temps.
Ouais.
La vie, c'est de la pâte à modeler.
Ah, j'aime bien.
Mais ouais, ouais.
Et ça fait flipper les gens avec qui je travaille. C'est pour ça que je le dis pas trop.
On a cramé ton secret.
Je suis pas crayonné. Non, plus, voilà.
Mais Jérémy m'a apprivoisé là-dessus. Il comprend.
Oui, et excuse-moi. Juste pour cette histoire de lâcher prise, c'est pour ça que dans le duo, je veux dire, Laurent, moi je dis, je reviens, ramène du boxon dans mon sens fonctionnement trop.
Oui. Trop cadré.
Trop cadré, quoi, finalement, tu vois.
Ouais.
Pardon, j'ai fini.
Mais oui, mais bref, je voulais aller aussi là-dessus. C'est les surprises, en tout cas, de la créativité te permettent ces instants de lâcher prise. Quand on n'y arrive pas, on se change pas du jour au lendemain. Il y a des moments où j'arrive à lâcher prise. Il y en a plein, pas du tout. Je déteste attendre. Quand je suis en attente, c'est horrible. Je tourne en boucle, je fais chier tout le monde, je parle du même truc. Enfin, non, mon cerveau, il y a des trucs qui, j'ai beau lui dire, bon, tu veux lâcher prise? Non, il lâche pas prise, quoi. Bon, voilà. C'est comme ça.
Il y a aussi ce truc de ex-graphiste, parce qu'il y a un truc assez contrôlant finalement dans le graphisme.
C'est pratique, c'est vrai.
D'ailleurs,
j'en fais un petit peu en ce moment là, une commande, et ça me fait vachement de bien.
T'es décomplexé.
Complètement, c'est reposant. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'essayais de, au moment où je le faisais, j'étais là, pourquoi tu te.
Là, un peu ton cerveau, il est un peu.
C'est une belle discipline, le graphisme, parce qu'elle est plurielle. Parce que tu maîtrises l'image, la typographie,
l'agencement de l'espace. Voilà, tu dois le mettre. Donc ça fait du bien, ça fait du bien. Mais moi, je suis comme toi, Laurent. En fait, là, mon lâcher prise, mes surprises, plutôt, je les ai vraiment dans l'accompagnement et le mentoring, etc. C'est génial parce que bah là, c'est pas moi qui contrôle puisque je suis en accompagnement des autres, quoi. Mmh. Et donc là, je me laisse surprendre par les autres, par leur dynamique. Je peux les guider aussi sur des problématiques que j'ai pu rencontrer. Mais ça, c'est fabuleux. Un peu comme voilà, comme ce que tu fais. Bah ça, tu peux pas maîtriser ce que les autres font. Te renvoyer, ce dont ils ont besoin, comment tu vas les accompagner d'après leurs besoins du moment. Ça, c'est trop cool. Vraiment, j'adore.
Parce qu'après avoir accompagné une centaine de femmes en coaching de sensualité, tu as décidé d'aller attaquer la créativité.
Ouais. Ben ouais, et c'est marrant, les détours, c'est ce qu'on disait à table, les circonvolutions qu'on fait des fois pour revenir à un endroit mais plus ajusté.
Tu te retrouves mais différente.
Exactement, puis à un autre endroit, c'est-à-dire que après avoir accompagné toutes ces femmes et avec 99% de réussite en tout cas à chaque fois, donc j'ai eu besoin aussi de longtemps expérimenter pour m'assurer une légitimité, un certain professionnalisme.
Tu te formes beaucoup aussi, hein, il faut le préciser.
Ouais, je me forme beaucoup, ouais. Je suis supervisée, je formais beaucoup, beaucoup de techniques et je continue. J'arrêterai jamais, d'ailleurs, je pense. Et donc, parmi de mes accompagnements, je me suis rendu compte que, en fait, c'était, ça allait de soi qu'il fallait que j'accompagne les femmes artistes. Alors, maintenant, je dirais artistes parce que j'aimerais bien accompagner des hommes aussi, mais là, c'est parce que j'étais très dans un public féminin et parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes artistes qui déjà me sollicitaient en coaching en sensualité, mais certainement parce qu'il y a une part chez moi d'artiste qui dans lequel elles se reconnaissent. Et donc je me suis dit que maintenant j'avais absolument tout. Ça fait quand même 25 ans que je suis en freelance, j'ai une belle expérience professionnelle en tant qu'artiste derrière moi et maintenant une belle expérience de coach, et je me suis dit bon bah je vais mettre tout ça au service justement des artistes, parce que vraiment, moi, la valeur de la beauté, c'est la, après la liberté, c'est la deuse. C'est hyper important, la beauté, pour moi. C'est vraiment un, c'est vital. Mmh. Et ce monde, il est pas beau. Mmh. Et donc, voilà où je vais placer le mot œuvrer une troisième fois. Ma contribution au monde, elle est là, en fait. C'est-à-dire de permettre, en fait, d'accompagner les autres artistes à sortir de leurs limitations qui sont voilà personnelles, qui sont financières, qui sont artistiques, etc. Il y en a plein, pour que un maximum d'artistes puissent œuvrer pour la beauté dans ce monde, parce qu'on en a hyper besoin. Mmh. Pour moi, c'est un vrai vecteur de paix sociale, oui, de mieux vivre ensemble. Mmh. Et donc, c'est vraiment de cette intention et de cette mission-là que j'accompagne les artistes maintenant. C'est pour leur donner une grande, grande place qu'ils méritent vraiment d'avoir, en fait, et dont le monde a besoin. Voilà.
Ouais, j'en suis convaincu aussi.
Et donc pour ça, t'as créé un programme.
Ouais.
Est-ce que tu veux nous expliquer en quoi il consiste, comment il fonctionne, ouais, à qui il s'adresse?
Effectivement. Donc là, je suis très contente. C'était aussi ma célébration que je partage. Donc parce que ce programme va être en plus financé par l'AFDAS. Mais donc j'accompagne les artistes à vivre de leur art. Et quand je dis vivre de leur art, je prends la dimension non artistique et artistique. Moi, j'arrive à un endroit où en fait, je vais rétablir. On va rétablir ensemble ou remettre du sens ou remettre de la structure, qu'elle soit financière, qu'elle soit artistique, qu'elle soit logistique, qu'elle soit organisationnelle, et aussi développer son vrai savoir-faire et le faire savoir, parce que du coup c'est bien beau d'avoir un savoir-faire, mais il faut le faire savoir. Donc aussi aller vraiment travailler sur la com, etc. Donc en fait c'est une manière holistique de s'utiliser en tant qu'artiste et d'être un peu son propre branding, et surtout ben de pas perdre de vue. Je les accompagne vraiment à se recentrer sur ce qu'elles sont. Je dis elles, hein, parce que j'ai que des clientes, mais je rappelle que les hommes sont les bienvenus dans mon programme.
Le message est passé.
Voilà, le message est passé. Vraiment remettre du sens et de la structure pour pouvoir faire leur big project, parce que tous les artistes là qui nous écoutent ont tout un gros machin au fond du bide qui a envie de s'exprimer au monde et qui n'a pas, alors certains ont la chance de pouvoir le faire vivre, d'autres moins, parce que faut ramener de l'argent, parce que la vie ça passe vite, parce qu'il y a les enfants, parce que j'ai pas le temps, parce que plein de raisons. Et en fait c'est comme ça qu'on dérive en fait de ce qui nous anime vraiment. Donc moi voilà, je prends un peu tout le package pour permettre de remettre de la puissance là-dedans.
Et tu proposes aussi de prendre le temps. Ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, on ne prend pas le temps de se poser ces questions-là.
Mais non. Ouais, c'est beaucoup, en fait. Mon accompagnement, effectivement, je vais avoir un peu de... J'ai assez peu de théorie, mais il y a beaucoup, un peu comme ce que vous faites dans la quête, hein. C'est le même principe. C'est vraiment de à chaque séance, on va faire des outils, en fait, qui vont permettre des prises de conscience, que vous, les épiphanies. Et face à ces prises de conscience, moi, je laisse personne repartir sans une action concrète. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des épiphanies, mais ce qui va tout changer, c'est de mettre une action réelle et concrète dans la matière.
Les fameux CTA, les call to action.
Ah, ça s'appelle, ouais, ça s'appelle comme ça.
Ouais, en marketing.
En marketing, ça s'appelle. Bah voilà, oui, c'est ça, call to action, pour arriver à un objectif. Donc nous, quand on commence le programme, on détermine déjà le vrai objectif de la personne, parce qu'on se rend compte que ça manque vachement de clarté pour beaucoup. On se perd un peu dans les besoins, donc on commence par remettre de la clarté sur quel est le véritable objectif de chacun, et de prise en conscience en action, on atteint l'objectif. Elle, il et moi derrière, juste pour en espèce de voiture balai, tu vois, pour que tout le monde arrive à son but, en fait.
Je trouve que c'est très touchant, ce genre d'initiative, parce que c'est vrai que pour parfois plein de raisons qui nous dépassent et qui sont légitimes également, mais on peut parfois avoir l'impression de passer à côté de sa vie. Mmh. Et quand tu me parles de big project, bon, c'est un mot qui englobe plein de choses, mais parce qu'on défend ça aussi. Mais c'est vrai qu'on a tous des besoins viscéraux qui parfois qui n'ont pas le temps de s'exprimer. Moi, je sais que une des raisons qui m'ont poussé dans une carrière artistique, c'est parce que je voyais trop d'adultes quand j'étais plus jeune qui pestaient contre leur vie ou leur travail.
Ouais.
Après, qui l'ont probablement fait aussi pour des raisons qui sont les leurs et qui sont compréhensibles aussi, peut-être pour donner un avenir à leurs enfants ou parce que ils ont besoin de se réaliser ou de sécurité. Enfin, il y a plein de choses. Et puis, on est une autre génération. Mais moi, j'étais genre, mais en fait, peut-être on est une génération qui veut le beurre et l'argent du beurre et c'est pas facile aussi à articuler. Mais là où je veux en venir, c'est... souvent avec Laurent, on parle aussi du fait de d'identifier ses besoins. Souvent le big project, comme tu l'appelles, quelque part, ce qui se cache derrière, c'est un besoin viscéral et que s'il est pas adressé, c'est dommage.
Un truc qui se flétrit.
Oui, voilà. J'osais pas aller par là, mais oui, voilà, c'est ce que tu l'as dit.
Mais si, en fait, c'est un moment devient un pilote automatique qui ne fait que travailler pour produire ou gagner de l'argent.
Ça crée une frustration et peut-être que cette frustration après se traduit en, je sais pas, en foutant de la merde autour de nous, quoi.
Ouais, exactement. Bah, soit en déprimant, soit en devenant en colère, soit en faisant la gueule, soit en prétextant que le monde va mal. Enfin, voilà, il y a mille raisons. Après, en tout cas, c'est le résultat, il est pas super. C'est dommage.
Ouais.
Et si ça a envie de pousser, c'est que ça a envie de pousser. Et c'est vrai que des fois, c'est confrontant parce que y a un truc qui pousse et qui a l'air d'aller de pas être du tout raccord avec la vie qu'on a actuellement. Donc c'est encore une fois, le courage est un peu un élément fondamental quand on est téléguidé comme ça par des envies. Moi, je pense quand elles sont vraiment viscérales comme ça, il faut répondre à l'appel. Des fois, c'est confrontant. Mais il faut vraiment répondre à l'appel, quoi.
L'appel de l'aventure.
Ouais.
Le courage d'être.
Ouais. Le courage
c'est
d'être.
C'est Paul Tillich, c'est un livre, bref, très connu. Mais le courage d'être, c'est pas toujours simple, hein.
Et non, ça, c'est un truc que je comprends, c'est que ce sera pas simple, en fait. Ça, c'est un truc un peu humain de, oh, si ça pouvait être fastoche, ce serait super. On en revenait d'ailleurs à nos discussions, Laurence, sur aussi quand on accompagne les gens, certains, arrivent avec, en demande d'une recette toute faite.
Ouais,
mais
carrément.
Il y en a pas, en fait. C'est ta propre cuisine.
Il y en a pour un an ou deux ans.
Ouais.
On peut faire une recette pour un an ou
ouais,
deux ans.
Mais c'est pas du long terme. Ça va pas faire chier aussi. L'idée, c'est vraiment déjà, moi, ce que j'aime, c'est de redonner les clés de bagnole à chacun,
ouais.
La pleine autonomie et surtout la pleine fantaisie, parce qu'on est tous un peu fantaisistes en fait, quoi.
On est tous un peu fantasmes.
Ouais, on est tous un peu.
On a tous un pince de poire.
Un petit peu zinzin. Oh, ça va, hein, c'est mignon.
Mais il est super mignon, j'adore, je kiffe.
On est tous un peu zinzin, tu vois, ce petit côté zinzin de chacun, c'est cool qu'il existe vraiment. Et en fait, le plus difficile, ça va être de dépasser l'obstacle des peurs qui seront tout le temps là aussi. De toute façon, ça aussi, ça partira pas. On aimerait bien, hein, moi, j'aimerais bien trouver le truc anti-peur. Tout fastoche, mais je crois que...
Il faut apprendre à composer avec. En fait, qu'on décide de les affronter ou pas, ils sont toujours là. Donc ouais. Autant apprendre à... Alors justement, je vais peut-être revenir sur le mot affronter, mais plutôt apprendre à les apprivoiser
ouais.
Et à danser avec.
Ouais.
Et aussi souvent, la peur est un vecteur, je le dis fréquemment, mais je le répète, c'est que si t'as peur, c'est bon signe. Parce
oui.
que si t'avais pas peur, c'est que tu t'en fous et que ça veut dire que c'est peut-être
et
pas important pour toi ou que tu es un psychopathe.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Mais si tu flippes, pour moi aujourd'hui, c'est un indicateur.
Ouais.
C'est un indicateur de, il y a peut-être quelque chose à aller chercher.
Complètement.
Peut-être c'est peut-être la vie en fait plutôt que la mort.
Oui, ouais. Je sais plus qui où j'avais lu ça effectivement que là où se cachent tes peurs c'est là que se trouve le chemin.
Oui.
Ce qui fait chier hein, parce
Trésor.
Que je veux dire si on passe au crible chacun nos peurs moi il y a des fois je me dis non c'est pas possible que là il y ait un chemin ça m'étonnerait quoi tu vois j'ai, par exemple moi je n'ai pas du tout envie d'expérimenter le dépouillement. Et ça se trouve peut-être qu'il y a une expérience derrière le dépouillement.
Ça veut dire quoi pour toi le dépouillement?
Le
dépouillement, puisque je revenais à la peur de manquer, mais moi une de mes plus grosses peurs, ce serait de me retrouver sans le sou,
ouais.
Sans maison. Bon, je pense que c'est une peur qu'on a beaucoup, hein. Mais c'est là où j'ai la limite sur cette phrase de me dire, je suis pas sûre que cette peur-là, j'ai foncièrement besoin de l'expérimenter, tu vois.
Ah tout à fait, oui, bien sûr. Ouais.
Enfin, j'aimerais pas, mais bon, bref.
Mais si t'étais amenée à l'expérimenter.
Oui,
il y a des gens qui vivent dans le dépouillement et qui le vivent très bien.
Ouais, je pense aussi.
Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de tout vivre ou tout expérimenter juste pour le fait que j'ai peur, je vais tenter.
Ouais, non.
C'est...
Ça a ses limites. En tout cas, la peur, elle sert aussi à ça. Comme tu dis, on n'est pas des psychopathes, elle sert à mettre un cadre.
Ouais,
pour pas faire les choses de manière complètement kamikaze.
Tu disais tout à l'heure que tu voulais retrouver du sens dans ton travail, quelque part, toute cette ce voyage que tu nous as raconté, c'est un peu ça. Quel sens aujourd'hui a ton œuvre ?
Mon œuvre,
ta vie, qu'est-ce que tu...
Oh bah merde, je me pose beaucoup de questions, mais celle-là, je ne l'étais pas posée.
On est sur sens créatif.
Oui, on est sur sens créatif. C'est vrai que c'est des questions que je me pose. Si, si. Moi, en ce moment, au fond de tout ça, je cherche la joie, en fait, et le jeu et l'amusement. C'est ça que je cherche. C'est que ça devienne un mode de vie. Alors, je suis plutôt quelqu'un de joyeux, mais pas toujours non plus. Mais je cherche à m'en servir comme d'un violon, quoi. Tu vois, d'être virtuose de la joie. J'aime ça, ça pour moi, et de la répandre. C'est-à-dire que je cherche un monde, je cherche à être dans un monde de joie, avec des gens en joie, et putain, j'aimerais bien que ce monde le soit, quoi. Ça peut être tellement cool, tu vois. Donc la question du sens, en tout cas, ouais, c'est derrière tout ce que je fais, mes dessins, mes accompagnements, mes textes, parce que j'écris aussi beaucoup, c'est vraiment une quête de joie, en fait, derrière tout ça. Que ce soit pas épisodique. Un truc un peu de moine Shaolin encore, tu sais, ou de Bouddha, quoi, tu vois, qui à l'intérieur de soi a une espèce de plénitude, de joie d'être. Je crois que c'est ça que je cherche pour moi, et c'est pour ça que j'accompagne les autres et que j'en distille un petit peu partout dans ce que je produis, pour inviter la joie dans les pages d'un livre ou dans un moment partagé, voilà, quand on fait du mentoring ou des trucs comme ça. C'est ça qui me donne envie.
Merci, Goué.
Avec joie.
C'était une putain de
avec
bonne
plaisir,
conclusion.
Avec plaisir, avec joie.
Bah, à bientôt alors.
À bientôt, merci. Ciao, Goué. Beaucoup. Merci.
C'était notre discussion avec Gwenaëlle Dudek. Merci, Goué, pour cet échange foisonnant sur le sujet de la quête de soi et des expériences enrichissantes qui nous câblent aux autres, comme tu le dis si bien. Un petit coucou à Anne-Bénédicte Schwebel et toute l'équipe de Maison Georges. Vous pouvez retrouver Goué dans les numéros de Graou ou encore découvrir ses oracles aux éditions Le Duc et Hachette. Et ne manquez pas son incroyable programme d'accompagnement en créativité intitulé « Vivre de mon art ». Retrouvez tous les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté Sens Créatif.
Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées.
N'oubliez pas de nous soutenir sur Patreon. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux.
Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr, sur notre serveur Discord ainsi que sur Instagram @senscreatif-podcast.
Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message.
Sur ce, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Everything is connected.